Bagdad, 21 août dernier. Alerte maximum à l'ambassade de France. Ces hommes sont la première ligne de défense. Ils n'ont ni visage ni nom et interdiction d'indiquer leur unité. Pour la première fois depuis 20 ans, un ministre des Affaires étrangères français se rend en Irak. Je suis le seul autorisé à filmer le déplacement de Bernard Kouchner. C'est ici que je fais connaissance avec Jean-François Giraud, l'ambassadeur de France, ici à gauche.
Nous sommes chez vous.
Chez vous, monsieur le ministre.
Oui, enfin, chez nous.
Visite exceptionnelle pour un ministre, mais la routine pour les hommes du Quai d'Orsay. Ils n'ont jamais déserté Bagdad. Tout de même, à Fort-de-France, Bagdad. Sur le toit de l'ambassade, Alexandre Garcia, premier secrétaire, a un souci d'intendance. C'est un spécialiste des situations de crise, mais pour ce genre d'imprévu, aucun manuel du Quai d'Orsay ne propose de solution.
Hop. Avec 50 degrés ou 55 degrés au soleil, les sacs se percent, se cristallisent et finissent par se percer. Et donc il faut quasiment tous les changer, les refaire, alors qu'on les a changés il n'y a pas longtemps. Là, on en a pour 5 000 $ de sacs de sable, donc on vient de payer. Et donc normalement, c'est couvert par une garantie, mais on ne va pas repayer, mais bon, c'est...
Même si le quotidien de cette ambassade n'a rien d'ordinaire, on maintient les apparences. Le protocole du Quai d'Orsay reste immuable.
Messieurs, c'est l'heure.
9h30 pile, la sacro-sainte réunion dans le bureau de l'ambassadeur commence. Tous ici présents sont des spécialistes dans leur domaine, avec des CV un peu hors normes. Frédéric Schmutz, le consul de l'extrême, récent poste la Sierra Leone et l'Algérie. Sylvain Fourrière, le polyglotte. Il parle 5 langues, expert de l'Iran, incontournable ici. Alexandre Garcia, le numéro 2, est aussi officier de sécurité. Enfin, Jean-François Giraud, le patron, la cinquantaine, toute une carrière dans le monde arabe, notamment en Syrie. Il y a 20 ans, il était déjà premier conseiller à Bagdad.
Écoutez, pour des raisons de sécurité, l'effectif de l'ambassade a été... limité à l'essentiel, compte tenu de l'attente et de l'intérêt pour nos autorités de notre perception, notre connaissance de la situation en Irak. C'est vrai que c'est un peu juste, mais nous essayons d'assumer.
Ces 4 hommes sont les seuls à représenter la France en Irak. À chaque réunion, revue de presse locale. C'est l'une des missions assignées à l'ambassade, prendre le pouls de la rue irakienne. 3 fois par jour, leur télégramme informe Paris des derniers développements.
C'est pour la première fois que le président Bush a évoqué la possibilité d'un retrait du retrait des troupes américaines.
Très bien.
Ici, chacun fait avec les moyens du bord, à la guerre comme à la guerre.
Autrefois, l'ambassadeur avait son secrétariat ici. Il y a 20 ans, il y avait dans ce bureau la secrétaire de l'ambassadeur et la secrétaire du premier conseiller. Donc c'est un bureau vide que nous occupons, puisque nous assurons nous-mêmes notre propre secrétariat pour que l'ambassadeur fait ses photocopies, passe ses fax et déchiquette lui-même les documents confidentiels. Fort heureusement, je n'ai pas eu l'occasion de mettre ce gilet lourd qui serait revêtu en cas de bombardement intensif de l'ambassade. Donc nous utilisons pour nos déplacements des gilets pare-balles qui sont beaucoup plus adaptés au costume et à la cravate.
Je le savais en arrivant ici, je ne pourrais pas vous montrer l'une des missions les plus essentielles que mène la France en Irak, le renseignement. Ce sont les agents secrets de la DGSE qui s'en occupent. Les seuls à aller sur le terrain, les seuls à pouvoir rencontrer toutes les factions du pays. À un kilomètre de l'ambassade, une voiture piégée vient d'exploser. Chaque jour, un attentat de ce type sème la mort dans la capitale. L'attaque kamikaze, c'est l'obsession des équipes de sécurité de l'ambassade. Contre elle, les moyens de défense restent très rudimentaires.
Et donc ces murs, c'est contre des attaques?
Oui, ce sont des murs anti-explosion. On appelle ça les T-walls dans notre jargon. Donc ça fait environ 4 mètres, 3 mètres 80 de haut, sur 2 mètres de large, qui a été posé dans la rue, sur la chaussée. C'est un vrai business ici à Bagdad. Hein. Il faut savoir que chaque morceau, chaque tronçon de 2 mètres sur 3 mètres vaut environ... entre 600 et 800 dollars, donc vous imaginez sur 30 mètres, sur 40 mètres, ce que ça peut représenter.
Si les murs de béton armé protègent contre des voitures piégées, le pire a été prévu. Dans les sous-sols se trouve le dernier recours. Alexandre Garcia me montre l'ultime abri, la safety room comme il l'appelle ici, une sorte de bunker.
Donc voilà la safety room, qui est une pièce de sécurité en cas vraiment d'extrême limite et de situation critique, hein, il faut le dire. C'est blindé, les structures sont renforcées et on peut tenir là en cas d'assaut contre l'ambassade. Donc il n'y a pas de lumière. Attendez, je vais allumer. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, donc une banquette, c'est spartiate, hein, une banquette, des réserves d'eau minérale. Et voilà, alors on s'assoit là, on attend que ça se passe. Selon le problème ici, évidemment, si on est là, ça veut dire que la situation est déjà suffisamment grave.
Dans la rue, face à l'ambassade, les gardes du corps préparent leur mission du jour. Okay. Escorter Jean-François Giraud dans Bagdad.
Fermez la porte, s'il vous plaît. L'autre aussi. Je vous ai dit de fermer les deux portes.
Et pour moi, toujours la même consigne, ne rien montrer qui puisse révéler le dispositif de sécurité. Ici, même les voitures doivent rester anonymes.
On contrôle la voiture. Si éventuellement il n'y a pas un terreau, entre guillemets, qui aurait posé une bombe sous la voiture et puis plastiquer la voiture.
De par le fait qu'on soit en pleine zone rouge, un contrôle physique des voitures est nécessaire avant chaque départ de mission. C'est la condition sine qua non dans notre phase de sécurité. On n'a pas de mécanicien à notre disposition, donc forcément les réparations, ben, ça se fait à notre niveau. Et puis, entre guillemets, c'est le système D. Pour nous, c'est hors de question de laisser les voitures à qui que ce soit.
Aujourd'hui, l'ambassadeur a rendez-vous avec son homologue italien. À chacune de ces sorties, un dispositif bien rodé. Voiture blindée, communication satellite et brouilleur radio.
Bonjour, comment ça va?
Et si ces mesures échouent, ces troupes d'élite ont pour ordre de se battre jusqu'au dernier pour protéger le représentant de la France. Le convoi est désormais en pleine ville. Le danger peut survenir n'importe où, n'importe quand. Dans les rues de Bagdad, le temps de survie d'un occidental lâché sans protection est de 12 minutes. Première cible en Irak, ces patrouilles américaines. Pour parer à une attaque kamikaze, à chacun de leurs déplacements, les convois US bloquent la circulation. Et les soldats américains n'hésitent pas à tirer à vue si une voiture s'approche trop près. Mais le cauchemar des gardes du corps français reste les embouteillages monstres de Bagdad. À l'arrêt, la voiture de l'ambassadeur est en danger.
Vous n'êtes pas inquiet quand on sort comme ça?
Il y a un risque pour les Irakiens comme pour les diplomates. Alors c'est vrai qu'on est davantage protégé dans une voiture blindée, mais on l'a vu au Liban notamment, ça ne résiste pas à un gros attentat.
Trop de monde sur ce pont, trop d'activité. La voiture doit repartir au plus vite et le chauffeur se dégage comme il le peut.
Alors là, nous sommes sur la rive droite du Tigre. Nous longeons à gauche la zone verte, à droite de l'ambassade d'Iran. L'ambassade qui compte aujourd'hui en Irak. Mon collègue est très actif.
La fameuse zone verte de Bagdad. Son accès est des plus stricts. Une fois à l'intérieur, on découvre une véritable ville dans la ville de près de 500 hectares. Ici, les Américains et leurs alliés ont créé en miniature l'Irak dont ils rêvent.
C'est quand même une bulle plus tranquille, où on peut sortir le soir. Les règles du couvre-feu que nous avons dans la zone rouge ne s'appliquent pas. Donc il y a une vie sociale, il y a quelques commerces, les gens se voient entre eux.
La France en zone rouge, l'Italie en zone verte. À la différence de Paris, Rome a envoyé des troupes en Irak. Ces diplomates sont aujourd'hui des cibles privilégiées. Alors, ils vivent sous ces abris anti-mortiers.
Maurizio, comment vas-tu ? C'est à toi, ce superbe animal ?
Même sous les bombes, la diplomatie conserve ses codes et son savoir-vivre.
Moi, je suis revenu pendant les...
Le salon de réception de l'ambassadeur italien se trouve sous cette tente de fortune.
Ça me fait plaisir. Tu es le premier collègue que je revois.
Même sous la tente, on retrouve l'élégance italienne.
C'est une élégance un peu arrangée, vous voyez. Le poste à Bagdad est un poste important, mais en même temps, bien sûr, très difficile. Et je dois dire qu'il y avait un certain nombre de candidats quand j'ai été nommé pour venir ici.
Les diplomates ont vocation à être aux avant-postes de ces crises et je crois que ça a aujourd'hui un très grand intérêt. En dehors de la violence quotidienne, il y a des institutions en Irak, il y a un président actif, un gouvernement, un parlement, et donc nous avons des interlocuteurs. Nous ne sommes pas au milieu d'une jungle sauvage. Nous sommes dans un pays qui est en guerre avec lui-même, qui cherche sa réconciliation nationale. Et l'Italie, la France, membres importants de l'Union européenne, je crois, peuvent contribuer très très utilement, très très activement à la solution de cette crise.
On me demande de sortir. Leur tête-à-tête durera une heure et demie. Retour à l'ambassade de France. Après le stress de la journée, des soirées qui se ressemblent toutes.
Le temps, il n'y a pas 36 minutes. Nous, c'est notre salle de sport. Et puis, c'est un peu de convivialité, de dépenses, des fouloirs. Et puis, on est entre nous. Voilà. On fait notre sport. Et puis, voilà. Ça fait du bien à la tête. Voilà, transpirer. Dans la rue de l'ambassade, là, vous avez une salle de sport. Des salles de sport, et dans les années 70, c'est Arnold Schwarzenegger qui est venu dans cette salle de sport.
À Bagdad.
À Bagdad, voilà. On a pu y faire un saut et récupérer quelques poids de cette salle là. Voilà, et donc par la même occasion, on va récupérer des affiches du dit Arnold Schwarzenegger.
Dans les chambrées, confort rudimentaire. Mais c'est le seul endroit où les hommes peuvent, pour quelques heures, baisser la garde.
Mais c'est dur d'être loin des proches, parfois ?
C'est plus dur pour la famille qui reste des fois toute seule dans son quotidien et toute seule à la maison ou avec les enfants le soir, plutôt que nous, en fait, dans le travail et baigner dedans du matin au soir.
Et les gens, quand ils regardent la télé en France, c'est vrai qu'ils ne voient que les attentats.
Vous dites à votre famille où vous allez ou pas toujours ?
Je dis à une seule personne. Je resterai le nombre de personnes concernant ma destination.
Non, des fois, de ne pas savoir, c'est mieux.
À l'ambassade de France, il y a l'extraordinaire de la mission. Il y a aussi les affaires courantes, comme le service des visas. Entre 8h et midi, Frédéric Schmutz, le consul, délivre les précieux sésames. 2000 visas l'année dernière, mais à Bagdad, pour remplir les formalités, on est prié de rester dehors. L'ambassade me demande de protéger l'identité de ce père et de son fils. Comme les autres en venant ici, ils se mettent en danger de mort. La plupart viennent chercher des visas d'affaires. Très rares sont ceux qui viennent demander le droit d'asile. Ce père, par exemple, est commerçant. Il veut aller en France rencontrer des fournisseurs. Mais ce n'est pas le seul but de sa visite.
On a bien entendu traiter le dossier de monsieur. Il est très honorablement connu de notre service commercial. Donc ça ne pose pas de problème particulier. Mais mon problème vient de son autre fils, Ihab. Parce qu'on a réellement du mal à mettre en accord la profession de pianiste de votre fils avec le but de l'invitation.
J'ai maintenant 70 ans et j'aimerais vraiment que mes fils m'accompagnent dans ce voyage. Regardez, c'était en 1979. C'est la dernière fois que j'ai pu emmener mes enfants en pèlerinage à Lourdes. Et depuis, on n'a pas pu y retourner.
Vous êtes chrétien ?
Oui, je suis chrétien, catholique.
Finalement, la famille pourra bien faire son pèlerinage à Lourdes. Journée importante pour l'ambassadeur. Les bonnes nouvelles en Irak sont rares. Aujourd'hui, petite victoire, il doit rouvrir le centre culturel français. Toujours cette volonté de maintenir à tout prix une présence bleu-blanc-rouge à Bagdad. C'est aujourd'hui le seul centre culturel occidental en activité. En juin dernier, il avait dû fermer. Trop de violence, trop dangereux pour les professeurs, tous irakiens, trop de risques pour leurs étudiants.
Bonjour. Alors, c'est vous qui êtes allé en France ?
Oui.
Chaque année, l'ambassade fait venir en France 10 élèves irakiens, les 10 meilleurs en français.
Bonjour.
Cette femme accompagnait ce groupe à Paris.
Vous prenez un café, un thé,
un café.
Et vous ? Café sans sucre.
C'est la première fois que vous alliez à Paris ?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez vu, par exemple, la Tour Eiffel ?
Oui,
bien
sûr. Oui, Montmartre, et toi ? Là, le musée du Louvre.
Oui.
Ils ont fait tout pour aller au cinéma.
Oui.
Et c'était leur première fois, parce qu'ils, dans leur vie, qu'ils n'ont jamais été au cinéma ici à Bagdad.
Oui. Et qu'est-ce que vous avez vu comme film ? Quel film ? Harry Potter.
Harry Potter. Pour eux, ça a été une bouffée de liberté ou pas ?
Ah oui, une découverte. Ils ont vu la vie normale. Là, on n'a pas de vie normale. Et là, ils se sont rendus compte plus en rentrant. Quand je leur ai téléphoné, alors comment vous allez ? Ils m'ont dit, oui, madame, où on était et où on est maintenant. Et ils ont remarqué la différence quand même.
Nous pouvons aller au restaurant, au marché à la rue, dans la rue, et faire la liberté.
Ces jeunes sont chiites ou sunnites. Et le temps d'un voyage à Paris, tout cela n'avait plus tant d'importance. Ils ont pu oublier la guerre de religion qui ravage leur pays.
Ils ne se connaissaient pas. Et ils riaient, ils parlaient ensemble, ils sortaient. Et j'ai admiré ça. Et je me suis dit encore, mon Dieu, il y a en Irak des gens qui croient à l'Irak, à l'unité. C'était vraiment un exemple extraordinaire.
Vous êtes des musulmans, c'est ça.
Est-ce que vous étiez content à Bagdad ?
J'ai de la peine de voir la violence dans ce pays. Mais on est là pour la main tendue, prête à apporter notre aide. L'Irak est un beau, un grand pays.
Un beau pays, mais aujourd'hui à l'agonie. Quand il est revenu à Bagdad 20 ans après son premier séjour, Jean-François Giraud n'a pas reconnu sa ville. À l'époque, les rues étaient pleines de vie. Aujourd'hui, tout est fermé, muré, détruit. Pour l'ambassadeur, tout n'est pas perdu. C'est en tout cas ce qu'il veut me montrer. Il m'emmène à la résidence de France. C'est ici qu'il habiterait en temps de paix. Mais à Bagdad, on en est encore loin.
C'est un peu dangereux pour vous d'être sur le
trône ? Oh, c'est un peu dangereux si je devais y rester plus que quelques minutes.
Avec ses 2000 mètres carrés de propriété entretenue avec soin, la France veut montrer à l'Irak qu'elle croit encore en son avenir et que le passé peut renaître.
Donc cet espace est un très bel espace de jardin pour des réceptions. Je me souviens, il y a 20 ans, on y faisait le 14 juillet. C'était plein d'invités.
Donc c'est ici que vous devriez vivre normalement ?
Alors c'est là que devrait vivre l'ambassadeur. C'est un lieu de réception, vous voyez, que le ministère a entièrement restauré, entièrement remeublé. Lors du pillage de 2003, tout avait été pris, les fils électriques, les portes, les climatisations, il ne restait absolument plus rien. Et c'est vrai que c'est parfois utile d'avoir un bon pillage pour avoir une restauration complète de sa résidence. Et le Quai d'Orsay, vous voyez, a fait ça très bien. Donc vous avez ici l'argenterie de la République qui est prête à servir avec vous voyez les plats à sauce dans tous ces placards sont les assiettes voilà et vous avez donc le service traditionnel de porcelaine de la République avec le monogramme vous avez découvert Christophe
En tant qu'ambassadeur, c'est quand même les réceptions, les choses comme ça, ça fait partie de la vie d'un ambassadeur, ça vous manque
ça, ça fait partie du métier, c'est-à-dire que le repas, déjeuner, dîner, réception est un moment de travail, un moment de convivialité, un moment de relation qui est très important dans la vie diplomatique. La littérature en a montré parfois la caricature, mais c'est encore aujourd'hui, en Occident comme en Orient, des vrais moments de travail, des vrais moments de contact, de compréhension et d'hospitalité.
Et donc ça manque, ça, un peu, ici
Ah, ça manque assez cruellement, et mais espérons que ce n'est que transitoire.
C'est une explosion ?
Oui, ça doit être un départ de mortier. On s'initie assez vite ici à reconnaître les mortiers, les voitures piégées, les tirs de l'aviation. Le problème avec ces hélicoptères américains, c'est qu'ils lâchent des leurres, c'est-à-dire des petits carrés de métal incandescent. Alors ça tombe un peu partout et ça se fiche dans le fond de la piscine et ça fait d'horribles traces.
Personne ne se baigne dans cette eau turquoise. Mais comme le reste, la piscine a valeur de symbole. Le signe que la France a confiance en l'avenir de l'Irak et que la vie peut reprendre à tout moment. Ici comme ailleurs, la France a son rang à tenir.
Marhaba.
Et Jean-François Giraud en est le garant.
Oui, c'était le piano de la résidence. C'est un piano quart de queue de facture britannique qui n'a jamais été excellent. Alors, lors du pillage de 2003, les gens ont pris les pieds, les pédales en cuivre, le couvercle, l'ont jeté dans le jardin. Retour à nos quartiers de la chancellerie, avec dans l'œil toujours cet espoir un jour de pouvoir investir cette maison. Yallah, messieurs.
Changement de décor, l'ambassadeur retrouve son monde.
Donc pour passer d'un endroit à l'autre, c'est...
Oui, il y a une série, c'est un peu comme...
comme dans les prisons, il y a des portes étanches, non pas pour que, par peur que nous nous échappions, mais pour nous protéger. Et donc là, on entre dans notre villa. C'est un style un peu loft, ça a été fait avec goût, c'est petit mais agréable. Voilà.
Pour vous, le piano, il représente quoi ?
Il représente ma récréation quotidienne, la possibilité de s'évader une demi-heure, trois quarts d'heure chaque jour.
Pendant les deux prochaines années de son séjour à Bagdad, Monsieur l'ambassadeur continuera de représenter la France avec son style, son flegme et sa délicatesse, toute diplomatique.